Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commerciale. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours.
Aristote, dans sa rhétorique, écrit que toutes les choses que l'on craint pour soi-même émeuvent la pitié quand elles arrivent à autrui. La pitié se définit là comme un sentiment qu'on éprouve par symétrie devant une situation qu'on craindrait de subir soi-même. Elle se ressent nécessairement par rapport à un spectacle extérieur. On ne pourrait pas avoir directement pitié de soi-même. Il s'agit donc ici de s'interroger sur la relation que la pitié crée entre autrui et moi. En effet, la pitié reflète l'ouverture de la conscience vers l'autre à un moment où il se trouve dans une situation douloureuse. Elle est donc à penser comme un rapport à autrui. Ce rapport peut être horizontal ou vertical. Horizontal si j'ai pitié de cet autre qui est semblable à moi, avec une idée d'égalité, mais aussi vertical si j'implore la pitié de quelqu'un qui peut exercer sur moi un contrôle, ou par exemple la pitié divine. Celui qui provoque la pitié peut avoir un comportement passif, si le voir suscite la pitié, ou actif, s'il implore la pitié s'il cherche à l'obtenir. D'une part, la pitié repose sur un rapport de réciprocité à autrui, et paraît ainsi humanisante, voire proche de l'altruisme, en tant qu'elle invite à agir devant la souffrance d'autrui. D'autre part, elle implique un rapport d'ascendant et de domination d'une personne à l'autre, abaisse la personne qui reçoit ou implore de la pitié. On peut donc se demander, comment expliquer que la pitié, qui est conditionnée par un rapport de symétrie entre autrui et moi, engendre en même temps de la distance entre celui qui souffre et son spectateur. Nous verrons en premier lieu que la pitié est une émotion humanisante qui crée un lien entre autrui et moi-même. Cependant, il s'agit d'un lien asymétrique, qui par le même mouvement met de la distance entre autrui et moi. Finalement, nous nous demanderons comment faire de cette émotion spontanée un moteur d'action. Premièrement, la pitié est ainsi une émotion qui humanise et qui crée un lien entre autrui et moi. Elle se définit d'abord comme un sentiment d'affliction que l'on éprouve devant le spectacle de la souffrance d'autrui. Elle suppose ainsi une certaine connivence entre celui qui souffre et celui qui observe, sans quoi le spectateur ne ressentirait que de l'indifférence. Ce sentiment de pitié participe donc dans une certaine mesure à la formation d'une communauté humaine, où chacun ressent de la douleur devant le spectacle de la douleur d'autrui. La pitié serait donc une émotion humanisante qui crée et repose sur un lien entre autrui et moi. Ainsi, selon Rousseau, dans son discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, l'homme à l'état de nature dispose de deux sentiments instinctifs, l'amour de soi et la pitié. Chaque sentiment vient tempérer l'autre. Sans amour de soi, l'homme courrait vers sa destruction, mais la pitié vient modérer cet amour de soi en poussant l'homme à chercher son propre bien en causant le moindre mal. La pitié crée donc du lien sur deux plans. D'une part parce que c'est une émotion partagée par tous, donc elle participe de la nature humaine. Je reconnais autrui comme homme parce qu'il est capable de ressentir de la pitié. Elle participe également à l'humanité car en interdisant l'indifférence devant la souffrance d'autrui, elle crée la condition nécessaire pour qu'il y ait une humanité, et non seulement des hommes dans un rapport conflictuel d'état de guerre de chacun contre chacun. D'autre part, elle crée un rapport entre autrui et moi. Je ne reste pas indifférent au spectacle de la souffrance d'un autre. Au contraire, j'essaye de limiter sa souffrance grâce à ce sentiment de pitié. De même, David Hume, dans son traité de la nature humaine, substitue au concept de pitié celui de sympathie, qui repose également sur une connivence entre autrui et moi. La sympathie est un instinct humain désintéressé qui pousse à trouver désagréable ce qui nous semble désagréable pour autrui. On répugne à voir un homme malade par le mécanisme de la sympathie qui nous fait imaginer sa souffrance. Inversement, par sympathie, on aime ce qui semble agréable pour autrui. La pitié repose ainsi sur la création d'un lien par lequel je ressens en moi ce que je pense qu'autrui ressent. Cependant, il s'agit d'un lien asymétrique qui par le même mouvement met de la distance entre autrui et moi. Tout d'abord, la pitié est conditionnée par ce rapport d'asymétrie. Certes, c'est une émotion forte qui saisit le spectateur devant la souffrance d'autrui. Mais cette souffrance est d'abord justement un spectacle, devant lequel on est passif et l'on peut décider ou non d'agir. On exerce ainsi un pouvoir sur celui qui provoque la pitié. On peut réfléchir à cette notion de spectacle en reprenant le thème de la catharsis défini par Aristote dans sa Poétique. La tragédie est l'imitation d'une action sérieuse et entière, accomplissant au moyen de la pitié et de la terreur la catharsis de telles émotions. La catharsis signifie donc la purgation des passions du spectateur. Dans cette définition, Aristote oppose la terreur et la pitié. Or, ces deux émotions peuvent être ressenties devant une même situation, Celui qui la vit de l'intérieur ressent de la terreur. Celui qui l'observe en voit les effets et ressent de la pitié. La pitié suppose donc une distance par rapport à autrui qui subit la situation. C'est la conscience de ce rapport d'asymétrie qui explique qu'on puisse implorer la pitié de quelqu'un. La pitié est aussi la grâce accordée à une personne coupable d'une faute ou qui a été vaincue et est à la merci du vainqueur. Paradoxalement, on peut donc vouloir faire pitié. On demande la pitié en même temps que la clémence. Mais cette pitié n'incite pas nécessairement à l'action. On peut tout autant avoir tendance à détourner les yeux. Ce rapport d'asymétrie implique en fait un retour à soi. On a certes pitié de celui qui nous ressemble, mais seulement à condition d'être soi-même en sécurité. Pour Paul Ricoeur, c'est là la différence entre pitié et compassion. Dans la simple pitié, le soi jouit secrètement de se savoir épargné. Le spectacle de la souffrance de l'autre provoque un retour sur soi, où la projection de soi en l'autre est guidée par la crainte de souffrir à notre tour. Au contraire, dans la compassion, voir la souffrance d'autrui projette non vers soi, mais vers l'autre. Mais quand je ressens de la pitié, je n'oublie pas que je suis moi-même à l'abri. Lucrèce reprend cette idée dans son De Natura Rerum, lorsqu'il écrit « Il est doux, quand la vaste mer est troublée par les vents, de contempler du rivage la détresse d'un autre. Non qu'on se plaise à voir souffrir, mais par la douceur de sentir de quel mot on est exempt. » Le spectacle d'une situation de souffrance crée aussi du plaisir lorsque, par symétrie avec autrui, on sent que l'on pourrait subir une situation douloureuse et on se réjouit d'y échapper. Le concept de pitié peut donc être pensé par symétrie à celui d'envie ou de jalousie. On observe la situation dans laquelle se trouve autrui et la comparaison avec notre propre situation provoque de l'émotion, qu'il s'agisse de pitié ou d'envie. Enfin, la pitié peut alors susciter un sentiment de rejet. On rejette la pitié d'autrui parce qu'on ne veut pas inspirer la pitié. On ne veut pas être dans une situation d'asymétrie par rapport à autrui. C'est ainsi qu'on dit « je ne veux pas de ta pitié ». Pour Nietzsche, dans « Par-delà bien et mal », il faut en fait rejeter la pitié parce qu'en ressentant soi-même une souffrance subie par autrui, on augmente la douleur du monde. La pitié serait en fait un sentiment pernicieux que les faibles cherchent à susciter chez les forts. Il ferait partie d'une morale des faibles qui cherche à tempérer la puissance des forts. Il s'agirait donc d'un piège dans lequel il ne faut pas se laisser prendre. Devant le paradoxe que pose cette notion de pitié, l'enjeu est finalement de faire de cette émotion un moteur d'action. On peut donc désormais revenir sur cette idée de pitié humanisante de notre première partie, en pensant qu'est homme non celui qui ressent la pitié, mais celui qui agit face à elle, et même qui agit quitte à contrevenir à l'amour de soi, qui est en fait capable d'aller contre ses propres intérêts. Il faudrait donc penser une pitié qui pousse à agir, mais pour autrui et non pour soi. On peut ici reprendre la distinction faite entre deux sortes de pitié par Stefan Zweig dans La pitié dangereuse. Il écrit qu'il y a deux sortes de pitié. L'une molle et sentimentale, qui n'est en réalité que l'impatience du cœur de se débarrasser au plus vite de la pénible émotion qui vous étreint devant la souffrance d'autrui. Et l'autre, la seule qui compte, la pitié non sentimentale mais créatrice, qui sait ce qu'elle veut et est décidée à persévérer jusqu'à l'extrême limite de ses forces, et même au-delà. Dans ce roman, Stefan Zweig oppose un mouvement instinctif de défense de l'âme contre la souffrance étrangère, qui est ressentie comme une agression et dont on veut se débarrasser, possiblement en sauvant celui qui souffre, et une pitié qui serait celle de l'action. La pitié ne porte donc de fruit que quand elle pousse à agir pour l'autre et non pour se protéger soi de sentiments désagréables. D'autre part, la pitié peut au contraire pousser à suspendre l'action et inviter à la compréhension. C'est le cas lorsqu'on implore la pitié d'autrui. Ainsi, Victor Hugo, dans son poème « La pitié suprême », décrit le spectacle du peuple opprimé, prêt à la révolution, pour susciter la pitié du lecteur et l'inciter à la clémence devant les atrocités commises au nom de la libération du peuple. Richelieu, Louis XIII, Arcadius, Ruffin, fuyaient. On entendait des voix dire « J'ai faim, j'ai froid, quand donc viendra le jour, la terre est noire ». C'était le grand sanglot tragique de l'histoire. C'était l'éternel peuple indigné, solennel, terrible, maudissant le tyran éternel. Cette pitié, à la fois profondément asymétrique et tournée vers l'autre, peut en fait finalement être pensée comme un attribut divin. On songe au Dieu chrétien, capable de ne chercher en rien son intérêt propre et de mourir par la personne du Christ pour libérer le peuple de sa souffrance. Étymologiquement, le mot pitié a en effet la même racine que piété, qui signifie en latin dévotion. C'est cette définition religieuse qui est en fait étymologiquement dominante. Dans le Nouveau Testament, lorsque la traduction indique que Jésus est pris de pitié, le mot grec traduit en fait un sentiment profond qui prend aux entrailles pour se traduire par un geste de miséricorde. Ce sentiment de pitié serait donc le propre d'une personne divine, touchée par la souffrance d'autrui et qui est poussée à l'action. Par exemple, Jésus est pris de pitié à la mort de Lazare, le frère de Marthe et Marie, et décide de le ressusciter lorsqu'il voit Marie pleurer. En définitive, le fait que la pitié repose à la fois sur la création d'un lien avec autrui et sur un rapport asymétrique n'est pas contradictoire et est même souhaitable tant que cette asymétrie invite à l'action. Ainsi, Emmanuel Lévinas, dans Éthique et Infini, défend une morale justement fondée sur la symétrie, dans lequel c'est le spectacle de la vulnérabilité de l'autre qui se lit sur son visage découvert qui va justement pousser à l'action.